Parce qu'il faut savoir qu'à Rennes, ils buvaient jusqu'à 444 litres de cidre par habitant et par an. Sans qu'on, nourrissons tout compris, sans compter les pommes qui rentraient dans, le, dans la ville et qui n'étaient pas comptabilisées. Donc il fallait débiter. En eau, il y a des fermes que c'était un fût de cidre tous les jours. La Bâtinais, c'était ça, un fût de cidre tous les jours, donc 1300 litres.
Donc c'est peut-être pour ça qu'on n'en gardait pas et qu'on buvait dans l'année, en fait, aussi.
Ben, le cidre de garde, il se conservait quand même jusqu'au mois de juin.
Poké de pomme, j'adore ça, donc ça fait du cidre.
Est-ce que c'est bon, le cidre?
Oui.
Bouscule tes sens.
Mais bien sûr, monsieur, quand c'est faire du cidre à l'apéro.
Vous avez vu, bu deux, trois coups de cidre et puis une autre bouteille de poêlée après, alors là, c'est la grande valse.
L'acidité. La quoi?
Et enfin, la station régionale de Rennes nous permet de ne pas oublier que si la France est le pays du vin, elle est aussi celui du cidre.
Bouscule tes sens. Hello à tous. Pour ce 21e épisode de Bouscule tes sens, je vous embarque avec moi dans le verger conservatoire de Poirier à Poiré, sur la commune de Plélan-le-Petit, dans les Côtes d'Armor. Et pour ce faire, je vous laisse en tout premier lieu avec la compagnie d'un personnage, une légende historique de l'association des Mordus de la Pomme, ex-président de l'association, Jean-François Aubert, nous a fait l'honneur de me recevoir au cœur même du verger conservatoire pour nous en raconter toute son histoire et certaines anecdotes autour de toutes ces petites poires récoltées, glanées auprès des voisins et de tous les particuliers recensés sur la commune et autour de la commune. Alors, je vous laisse en compagnie de Jean-François Aubert, qui n'a pas la langue dans sa poche.
C'est que M. Martin, l'ancien maire de Quévert et le président du Codépran, donc pays de Rance, voulait faire un jardin fleuri pour tous les pays, toutes les communes du pays de Rance. Donc, certaines communes avaient choisi, par exemple, à Quévert, les roses remontantes, les chênes. Il y a près de 50 variétés de chênes de plantées à Plélan. D'autres avaient choisi les frênes à l'Envalais et ici, ils avaient choisi les poiriers. Pourquoi les poiriers? C'est parce qu'ici, dans le temps, il y avait du poiré, une fabrication de poiré. Et on a retrouvé dans un journal local, le Dinanais, qu'il y avait du poiré et puis ils en buvaient au moment des fêtes. D'accord. Donc Prosper Bénard avait dit « on va planter des poiriers ».
Le Dinanais, donc, c'est un journal qui paraissait tous les dimanches. L'édition du 8 décembre 1878 fait état dans un texte. Et diable, puisque la soif se faisait sentir, le poiré coulait à flot. Car si l'on faisait du cidre à Plélan, l'on y faisait surtout le pétillant poiré, tant ses fruits venaient bien sur cette terre aride. Et ce petit journal-là a été la base de...
C'est ça qui a donné l'idée à Prosper. Et donc, la commune, c'est même pas la commune, hein, je crois que c'est tout le canton de Plélan-le-Petit qui a choisi les poires.
Et là, si on doit décrire un petit peu le terroir où on est, au niveau du sol, de l'environnement, de la climatologie, dans le journal, c'est marrant, il parle quand même de territoires arides.
Non, ce n'est pas des terres très riches.
C'est des terres argileuses, on va dire, zone humide. Vous êtes sur une zone humide ici, et où un agriculteur qui, à l'époque, a accepté qu'on fasse des plantations, parce qu'il y a un corridor ici qui est ni plus ni moins qu'une rivière qui va rejoindre l'Arguenon. Eh ben, toute cette partie-là, déjà, vous pouvez dire, beaucoup de zones humides. Et autrement, c'est un sol aride, argileux. Et puis un peu plus haut, c'est un peu plus limoneux, on va dire. Mais c'est quand même argileux, quoi. Terre lourde, difficile à cultiver, de la pierre un peu. Donc, c'est des sols pas faciles à travailler.
La première plantation, tout a crevé.
C'était trempé. On était obligé de drainer, quoi. Dès qu'on faisait un trou, c'était rempli d'eau le lendemain.
Comment vous avez réussi à planter des poiriers?
Les Mordus de la Pomme avaient déjà répertorié pas mal de variétés de poiriers dans le quart nord-est de la Bretagne. Mais il n'y avait pas de terrain pour les planter. Donc, Prosper était bienvenu avec son terrain. Et donc, il les a fait planter par les employés. Et puis nous, on est venus les greffer avec nos variétés. Ce sont des variétés locales anciennes, donc il fallait les conserver. Monsieur Martin était pour conserver les anciennes variétés. Par exemple, la commune de Quévert n'avait pas de patrimoine bâti, parce que tout est sur Dinan. Et donc, ils avaient une chapelle, ils l'avaient restaurée. Et donc, pour M. Martin, le seul patrimoine qu'il avait, c'était le patrimoine pomologique et puis tous les végétaux. Pomologique, surtout au point de vue pomme, parce que la commune de Quévert, comme toutes les communes ici, vendent la richesse des agriculteurs, c'était la vente des pommes ou la vente du cidre. On avait un agriculteur de Tadin qui vendait un tonneau de cidre tous les jours à la petite vitesse à Dinan, donc à côté de la gare. Donc un tonneau, c'est 1300 litres. Hein. Et donc c'était bu dans la journée. Donc la vente du cidre ou la vente des pommes était la richesse et les pommes étaient vendues par la rance dans des chalands. Par exemple, monsieur Pinault, notre Pinault local, donc ses pères et grands-pères vendaient des pommes à Morlaix. Ils avaient un bateau et le bateau faisait aussi bien le canal, la rance que la mer. Bon, il a coulé juste avant la Deuxième Guerre mondiale.
Et donc là, cette partie-là du verger a été plantée il y a
30 ans.
En 93.
Voilà.
En 93, son anniversaire aujourd'hui, enfin cette année.
Voilà. Justement, à votre revenue, on a pensé que c'était une bonne idée de fêter ça ensemble.
On a mis une bouteille.
Ah, ouais. J'espère, oui. De pétillant.
On va goûter des poires. Et là, il y a combien de variétés qui ont été plantées ici?
On ne les compte pas, nous.
Il y a le plan là-bas.
On peut aller voir?
Oui.
Allez.
On a fait un étiquetage grâce à Jean-François.
Ce sont des tiges au service des jardins de la ville de Dinan qui les ont faites. Donc, on récupérait des plaques d'aluminium de camping-car ou de caravane. On les découpait et puis on les martelait après.
Théoriquement, il y en a 30.
Une trentaine. Poire de fouillu, éon, masure, d'heureux, sans pépin.
Ce qui est intéressant, c'est d'où ils viennent et chez les gens, chez qui ils viennent.
Si on commence par le début, donc poire de juillet ici, et donc c'est une poire qui est mûre fin juillet. Donc on l'appelle poire de la Madeleine, poire des battages, poire des battous, poire de tout ce qui a à trait au battage. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de correspondance dans le reste de la France.
Donc là, tous ces arbres, ça a été recensé dans la population des environs.
Oui, parce que le poire de juillet, on trouve ça jusqu'à Dol de Bretagne, et puis en descendant jusqu'à Lorla, donc jusqu'à Cône.
D'accord.
Bon, mais on en trouve par-ci, par-là.
La variété de jugon, qui est juste à côté. Mmh. Ok, d'accord.
Poire de coin, donc c'est une variété qu'on a pris dans le marais de Dol, à Rolandrieux. Et poire de coin, c'est parce qu'elle est côtelée, il y a 5 côtes. Et de l'autre côté du quenon, les manchois l'appellent poire à côte, je crois, un truc comme ça. Donc on la trouve dans le secteur du marais de Dol et puis de la Manche. Poire de coin a été vendue à l'hospice de Dol de Bretagne comme poire à cuire.
D'accord.
Par le monsieur de Rolandrieux.
Utilisation, il y a bien précisé les utilisations, cuite, crue, alcool. D'accord.
Au-dessus, c'est Jean-Nicolas. Donc c'est une poire assez locale de la région de Saint-Malo, donc du Clos Poulet. Et donc c'est qu'une poire à cuire, un peu granuleuse. L'amalier était très répandu. Hein. C'était tout le Clos Poulet et ça descendait jusqu'à Combourg.
D'accord.
Et là, c'est une poire à cuire. Et lorsque on a récolté les greffons il y a donc plus de 30 ans, il y avait encore des restaurateurs qui l'utilisaient pour accompagner les rôtis. Donc maintenant, ça ne se fait plus, mais bon.
Mais
oui. Donc là, l'amalier, comme tu viens de me dire, ça vient de M. Barbançon à Saint-Père-Marc-en-Poulet. Alors là, la sans pépin, normalement, le vrai nom, ce serait Belle de Bruxelles. Mais elle n'a pas été trouvée à Bruxelles. Elle serait originaire d'Allemagne au Moyen-Âge. Et elle serait arrivée sur la Belgique. Et puis après, elle est descendue à travers toute la France.
D'accord.
Donc on en retrouve par-ci, par-là, un arbre tous les 30 km. Alors celui-là, c'est pareil, il vient du marais de Dol.
Ce qu'il faut comprendre, donc, c'est qu'il y a 30 ans, même plus de 30 ans, des associations comme les Mordus de la Pomme et Jean-François Aubert en est un représentant, ont été enquêtées auprès de tous les paysans du secteur pour savoir quelles étaient les variétés qu'ils utilisaient, leurs préférés, leurs usages et tout, avant que les personnes et les arbres disparaissent. Donc le moment clé a été le collectage de ces informations, ce qui permet de restituer 30 ans après ces informations. Et parfois de retrouver des arbres qu'on retrouve nous en tant que poiriers centenaires, etc., dont on n'a plus de nouvelles. Et en fait, ils ont déjà été greffés dans des vergers conservatoires comme ici.
Donc c'est un gros travail quand même de recherche, de collectage.
Et puis donc il y a eu des fiches de fête sur toutes ces variétés.
Et vous êtes combien au Mordu de la Pomme dans le noyau dur des Mordus de la Pomme?
Bien, maintenant la plupart sont soit au cimetière, soit en EHPAD. Ceux qui ont monté ça avec Monsieur Martin. Maintenant, y a une autre équipe.
Ce sont des bénévoles qui se succèdent, etc.
Ouais.
Et nous, on est là pour essayer de faire en sorte que le niveau d'information persiste et perdure, et qu'on ne perde pas, à la suite d'un changement de bénévole,
toutes ces précieuses informations,
qui sont souvent écrites sur papier ou dans la tête des bénévoles.
On continuera la balade avec Olivier Ibarra, le veilleur des vergers conservatoires, le référent pour le pôle fruitier de Bretagne, qui va aider, mettre en lien toutes ces personnes qui recensent ces anciennes variétés, mettre en lien les producteurs avec les pépiniéristes et faire un énorme travail génétique autour de toutes ces variétés anciennes qui représentent la culture et le patrimoine culturel pomologique de Bretagne.
Alors, le pôle fruitier de Bretagne a été mis en place pour, on pourrait dire aujourd'hui, pour veiller sur ceux qui veillent localement aux variétés locales, aux variétés anciennes.
D'accord.
Il faut savoir qu'en Bretagne, il y a beaucoup de structures qui se sont préoccupées depuis plus de 30 ans à sauver ces variétés anciennes et à collecter non seulement la génétique, mais aussi les aspects culturels, l'usage, etc. Du coup, il y a tout un réseau de vergers conservatoires qui s'est créé spontanément.
D'accord.
Et l'idée du pôle fruitier de Bretagne, c'est de veiller sur tout ça et d'essayer d'en faire une image régionale pour vérifier qu'est-ce qu'on conserve concrètement et comment on pourrait demain les remettre à disposition de ceux qui en auraient besoin.
Donc il y a aussi des producteurs qui font appel à vous pour greffer des variétés.
Oui, ça peut être des producteurs déjà installés, des porteurs de projets ou des particuliers. Et après, quand ils s'adressent au pôle fruitier, nous on les renvoie en fonction de leur localisation et de leur projet vers la structure locale la mieux à même de répondre à leur projet.
Il y a tout un groupe de pépiniéristes bio-fruitiers en Bretagne qui n'existent pas tellement ailleurs en France. Et ils sont, je ne sais pas moi, une vingtaine, qui font de la pépinière avec rien que des fruitiers et beaucoup de variétés anciennes, locales.
C'est un autre maillon de la chaîne de la conservation qui va vers la valorisation, la diffusion. Ce sont des pépiniéristes qui ont fait le choix de travailler spécifiquement avec les structures locales, donc, et avec les Mordus de la Pomme, et avec Arboré Pomme dans le Finistère. Ils ont à cœur de produire eux-mêmes leurs fruits. Ce ne sont pas des revendeurs. Mmh. Ils achètent des porte-greffes. Ils greffent eux-mêmes les variétés qu'ils vont collecter chez les anciens et chez les assos. Et après, ils commercialisent ceci.
Le premier pépiniériste qui a monté cette association des pépiniéristes bio-fruitiers, c'est Cyril Maclair. Et la plupart sont passés par chez lui. Lui, il est basé à Plougonvert, à côté de Guingamp.
Du coup, là, on est dans un verger conservatoire uniquement de poiriers.
Voilà, un verger conservatoire au sens strict. Donc, où on a vraiment mis sur ce verger les variétés collectées localement, indépendamment d'histoires de goût ou d'affinité. L'idée était vraiment de conserver le patrimoine. Donc, souvent, on fait deux arbres par variété. Donc, la variété Grand Yann, par exemple, on va trouver deux arbres de Grand Yann. Ça permet de comparer, de vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans le greffage, ce qu'on apprend souvent bien trop tard, etc. Et la conservation régionale bretonne, elle ne se fait pas sur un grand verger où on rassemblerait tout, parce qu'il y a trop de variétés. On est à plusieurs milliers, 3, 4, 5 000 variétés possibles.
Quand même.
Et on se repose sur le réseau des vergers conservatoires créés, il y a pour la plupart 20, 30 ans, par les structures locales.
D'accord.
Donc moi, au pôle fruitier Bretagne, je gère un verger virtuel breton composé d'une multitude d'autres vergers. Donc ça représente plus de 10 000 pieds sur lesquels je dois veiller.
Et en plus, la Bretagne, c'est beaucoup de terroirs. La nature de la terre n'est pas uniforme partout. Donc il vaut mieux laisser les variétés dans leur terroir. Parce que lorsqu'on les met ailleurs, ça ne marche pas. Et dans les années avant la Deuxième Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des très bonnes variétés, par exemple sur Pleudihen. Ils les ont essayées dans le bassin rennais et ça n'a pas marché. Donc ils attrapaient toutes les maladies. Donc nous, on a préféré, au niveau des Mordus de la Pomme, de les laisser dans leur terroir. C'est pour ça qu'on a plein de petits vergers. C'est plus difficile à suivre, mais lorsqu'il y a une maladie, tous les arbres ne meurent pas, ne sont pas tous atteints, je veux dire.
Là, on est devant un arbre intéressant, qui est devenu intéressant récemment. Donc celui-ci porte le nom de Petite Québriac. Alors peut-être d'abord, Jean-François pourrait nous raconter l'histoire de Petite Québriac.
Petite Québriac, et puis il y a la Grosse Québriac qui est juste après, là. Et Petite Québriac, ça vient d'un champ où il y avait pas mal de poiriers, juste avant à Bazouche-sous-Aidé, juste avant le canal. Et donc, j'ai récolté les fruits, j'ai fait les fiches, etc. Et puis, lorsque le verger s'est décidé, j'ai été chercher les greffons pour les greffer ici.
En collaboration avec l'INRA d'Angers, on pratique du génotypage. En analysant des feuilles, on fait des marqueurs au niveau de l'ADN. Et on regarde le profil que ça donne. Et si deux échantillons ont le même profil, on sait qu'elles viennent originellement du même pépin, qui a peut-être plusieurs siècles.
Ouais.
Mais que depuis, ça s'est multiplié que par clonage. Et si les profils sont différents, génétiquement, ce sont deux entités différentes.
Ouais.
Jusque-là, tout va bien. Au pôle fruitier de Bretagne, on a initié depuis 2021 un inventaire des très vieux poiriers, qu'on a appelés les poiriers vénérables. Donc ce genre de sujet qui font plus haut que ça, qui font 8-10 mètres de haut.
D'où leur nom vénérable.
Vénérable parce qu'ils sont... Ils peuvent être remarquables, mais ils sont vénérables par leur longue barbe, on va dire, de ça. Et on a cherché des financements qu'on a obtenus pour faire aussi des profils génétiques de ces arbres-là. Et il se trouve qu'en 2022, on a analysé à la fois Petite Québriac dans un verger conservatoire, donc dont on n'a certainement plus le pied-mère d'origine. On a l'histoire, mais l'arbre a sans doute disparu.
Non, parce que...
Et un autre arbre qui a été inventorié du côté de Longaulnay, je crois, de la Chapelle-Chaussée, pour être plus précis, que j'ai appelé l'Aunay-Péan, parce que c'est au lieu-dit l'Aunay-Péan.
D'accord.
Voilà, rien à voir. Donc c'est des arbres dont on dresse le phénotype, c'est-à-dire on regarde la morphologie de l'arbre, les fruits, quand on peut y aller et tout ça. Et il se trouve que les résultats qu'on a eu au mois de mai dernier nous ont donné comme information que c'était le même profil. Donc la variété qui a été trouvée dans le secteur de Bazouge et la variété qui a été trouvée de l'autre côté de la 4 voies, côté de la Chapelle-Chaussée, sont issues du même pépin. Et donc aujourd'hui, je profite de cette visite pour aller observer, parce qu'on a les photos de l'Aunay-Péan.
D'accord.
Que j'ai prise, qu'on prend à l'échelle, et je suis allé collecter là tout de suite ces variétés-là, et je puis dire qu'effectivement c'est le même phénotype, ce qui tombe bien,
parce
que sinon on serait embêté. S'il y avait la même génétique et pas le même phénotype, voilà. Donc typiquement une poire à poirer de début de saison, parce que là elles vont pas tarder.
Elles vont être.
Je pense que tu peux la goûter, il y a de l'astringence à souhait et du jus.
Il y a de l'astringent, ça.
Oui. Donc normalement, ça serait la variété Mato qu'il y avait dans tout le nord du bassin rennais et qui était très utilisée pour faire les premiers cidres. Et donc, ils rajoutaient ça dans les variétés de pommes à cidre précoces parce que la poire fermente beaucoup plus rapidement. Et donc, ça leur permettait de vendre du cidre et de faire la liaison entre le cidre de garde et puis le nouveau cidre qui allait arriver.
En tout cas, pour revenir à ça, au-delà de la curiosité de trouver deux arbres qui ont le même profil, qui sont distants d'une quinzaine de kilomètres, à peu près, ce sont des arbres qui sont plus que centenaires. Donc ça montre bien qu'il y a eu une histoire sur cette variété, une diffusion entre paysans, et que ce n'était pas juste une curiosité génétique que quelqu'un avait dans son coin. C'est aujourd'hui, on la trouve un seul exemplaire dans un verger conservatoire.
Il y a une raison.
La génétique nous montre, et c'est le cas sur d'autres aussi, que voilà, il y a quand même un pool variétal qui... Ces profils-là ont été retrouvés que deux fois sur ces deux arbres-là. Ils n'ont pas été retrouvés dans les 8000 analyses qui ont été faites sur les poiriers à l'échelle française et européenne. Donc ça, on ira voir plus loin sur les allèles et les gènes, voir quelle parenté ils ont. Mais en tout cas, là, c'est un peu notre travail un peu moderne, des sujets heureusement conservés depuis 30 ans, le vérifier notamment sur ces vénérables, est-ce qu'ils sont déjà conservés. Et donc, on travaille avec des producteurs de poirées qui cherchent à aussi faire des poirées de terroir, retrouver des variétés locales. Je sais que tu as déjà rencontré Jean-François Courcou et Christian Moisan, qui sont les deux fer de lance de cette démarche.
Ouais.
Et qui sont curieux d'en savoir plus sur ces variétés, qui sont avides de connaissances là-dessus.
Ouais.
Et ce qui est dingue, c'est qu'ils sont tous différents.
Mais c'est ça.
C'est pas de la collectionnite, quoi. C'est, à part, bon, tu vois, les petits, là, c'est des bésis. Poirier sauvage.
On dirait des billes.
Ouais.
C'est même plus petit que des billes.
Ouais, c'est du poirier sauvage, normalement.
Donc là, c'est ce qu'ils appellent la poire de Bzi. Donc Bzi, ça veut dire poire sauvage. Hein. Et donc, ça vient de la région de l'Orla, donc à côté, entre Cône et Merdrignac. Et alors, on pense que c'est une variété sauvage, mais qui était très productive. Ce que faisaient les anciens, ils mettaient des bâches en dessous, tous les petits fruits tombaient, ils les ramassaient et ils les mettaient à fermenter pour faire de l'alcool. Ce n'est pas le jus qu'on fait fermenter pour l'alcool, c'est toute la...
C'est directement les fruits.
Tous les fruits, oui.
Bah, vu la taille, oui, ça se comprend en même temps.
Et puis, je crois qu'on a dû faire l'indice réfractométrique et je crois que c'est très riche en sucre.
Oh, il a un port incroyable celui-ci.
Il a des feuilles qui sont bien nivelées. C'est probablement un Pyrus nivalis. C'est un peu le problème avec les poiriers, c'est qu'ils sont des hybrides. Il y a différentes sous-espèces de poiriers qui s'hybrident joyeusement. Bon, ils ont bien raison. Ça complique la tâche des botanistes. Mais il y a un caractère marquant sur la feuille, ce côté ondulé sur le côté.
Ouais.
Que tu ne trouveras pas sur une feuille de Pyrus communis, les poires à couteau, la plupart, elles ont des feuilles bien lisses, bien raides. Ça, le port ondulé, c'est souvent du Pyrus nivalis.
Donc plutôt pour les utiliser pour le poiré, quoi.
Alors, il paraîtrait que la plupart des variétés utilisables pour le poiré auraient pour souche du nivalis.
D'accord. Alors allons voir Mazur et Beaumarchais.
Parce qu'au niveau du génotypage, on s'est aperçu que l'un était le fils de l'autre.
D'accord.
Et ça, tu le savais déjà.
Ben, ça vient de Québriac, chez Monsieur Mazur. Donc, pour lui, c'était un semi naturel de son poirier, le suivant. Donc, et le génotypage l'a confirmé. Oui, Beaumarchais, les deux là sont Beaumarchais, donc les deux autres, c'est Mazur. Mais ce sont des arbres immenses.
Donc, père et fils, c'est ça? Ah, ils sont immenses, par contre. Le port, Ah, et puis c'est vraiment par grappe condensée, quoi, vraiment.
Ben là, c'est on. Et on, donc c'est une variété de quai vert. Il y en avait tout un alignement à quai vert.
Éon.
Oui, parce que le champ appartenait à M. Éon. Hein.
Finalement, toutes les variétés, on voit qu'il y a quand même soit le lieu dit, soit...
Que le type ne se rappelait plus du nom. Hein.
Eh oui.
C'était des poiriers plantés par son arrière-grand-père. Mmh.
Oui, ils avaient déjà une centaine, 200 ans à l'époque, les poiriers.
D'accord.
Donc ouais. Le nom...
Donc, Éon est astringent, mais lorsqu'on la cuit, elle est très bonne. On a fait des gâteaux avec ces poires-là pour la fête de la pomme.
D'accord.
Et ça a été très apprécié. Une autre poire qui est intéressante, c'est juste au-dessus du bassin rennais, Bonne Femme, voilà.
Ah, la Bonne Femme, bah oui. Bonne Femme. C'est toujours intéressant, la Bonne Femme.
C'était la poire à cuire qui était vendue au marché Aulis à Rennes. Mais les goûts ont changé. Et donc, ils ont trouvé d'autres variétés de poire à cuire qu'ils ont appelées poire de Bonne Femme. Donc, on a 5 variétés de poire à cuire appelées Bonne Femme dans la région de Rennes. Parce que bah, les goûts des acheteurs changeaient depuis 200 ans. Hein. Mm. Mais là, ça serait l'arbre de poire de Bonne Femme d'origine. Là, c'est Libo. Libo, c'était seulement une poire pour faire de l'alcool. Qui vient de Melesse.
Astringence, hein. Vache.
Qui vient de Melesse.
Acidité, astringence.
Et ça vient du village L'Amiral à Melesse. Mais déjà, l'agriculteur était déjà en retraite. C'était déjà quelqu'un d'autre qui avait repris la ferme et puis qui abattait les arbres.
Ici, les poires, elles sont récoltées par certains ou...
Alors, au départ, on a prévu la commune de mettre, de proposer en vente au départ. Hein. On a vu que finalement, la vente, ça réussit une fois avec justement quelqu'un qui fabriquait du cidre, qui est très connu sur le coin. Hein. Après une année, finalement, je pense qu'il est parvenu, il a trouvé sûrement ailleurs. Et maintenant, on dit aux gens, on donne aux gens, on leur dit, si vous voulez prélever, vous prélevez. Si on trouve des gens à venir prélever, et on a trouvé notamment un qui est arrivé ici un peu par accident, donc de Port Carreau, et qui lui a prélevé l'année dernière 400 ou 500 kilos de poire, et qui s'occupe de la taille du nettoyage de printemps et de l'automne. D'accord. Et là, c'est ça un peu la contrepartie. Et il fait ça chez lui à Port Carreau. On incite les gens du coin on les incite à venir ramasser parce qu'autrement c'est perdu. D'accord. Mais bon, on rêve pas, on va pas faire un commerce de ça, on préfère que ce soit qu'il y ait le maximum de gens à venir ramasser des poires. Quoi. Il y a des variétés qui plaisent beaucoup, évidemment, il y a des variétés, alors il y a des gens, il y en a par ici, là, on voit tout de suite quand c'est mûr, ils sont là les gens, quoi. Ils commencent à connaître.
Hein. Ils savent.
Ah ouais, ils commencent à connaître. Quoi.
Là on a grand Yann.
Ah, grand Yann, oh elles sont belles.
Bah, grand Yann, c'est typiquement des synonymes maintenant génétiques. Parce qu'on a vu, il y a une variété très connue dans le secteur qui s'appelle Jaunette. Il y en a une autre qui s'appelait Julienne. Et Jaunette, Julienne et Grand Yann ont été génotypés avec le même profil.
D'accord.
Donc je suis allé tout à l'heure récolter à l'aire de repos de Plélan en sud, la variété Julienne et la variété Jaunette. Et là j'en prendrai quelques-unes de Grand Yann pour faire une photo de groupe.
Julienne, c'était tout le pays de Dinan. Et on a trouvé Jaunette à Mignac-Morvan, au Vieux-Bourg. Et il n'y a que là où on l'a trouvé, Jaunette. Et Grand Yann, on l'a trouvé à Tréverien. Ce que nous avait dit l'agriculteur, c'est que tous les pommiers avaient gelé, je ne sais plus à quelle année, et ils avaient été recherchés des poiriers pour remplacer les pommiers pour faire du cidre.
D'accord.
Et moi, je pensais qu'ils avaient été en Normandie. Puis, en fin de compte, ils ont été dans le pays de Dinan pour prendre la julienne. Et donc, c'est pour ça que Grand Yann ressemble à julienne.
Je vais en goûter une, tiens. Elles ont une forme vraiment particulière. Hein. On cloche un peu...
Curé. Mmh. Mon curé. Elle vient de Saint-Hélin. Hein. Non, Saint-Solin.
On y retourne parce qu'il y a pas mal de jus. Elle est bien acide. Hein. Très agrume. Elle a des beaux arômes. Hein.
Elle est notée curée, mais ça ne correspond pas ni à la curée nationale.
Ah ben non. C'est les curés locales. Parce que c'était le curé du village qui avait donné les greffons au type.
En général, c'était plutôt des poires à cuire ou à couteau. Ouais.
Pas forcément, hein. Parce que dans le département d'Ille-et-Vilaine, le grand séminaire, c'était un lieu de formation d'arboriculture et de maraîchage. Mmh. Et je vois toujours le curé de Saint-Pierre, quand j'étais jeune, il descendait avec son tablier de jardinier. Il descendait le bourg. Mmh. Il était plus jardinier que curé. Et il y avait des gens qui disaient, je viens du grand séminaire. Et parce qu'ils avaient fait la formation maraîchage et puis arboriculture au grand séminaire.
T'as décidé de tout prendre. On va faire des filles, l'arbre.
On a une chambre photo au bureau.
Ok.
Et du coup, ça permet de faire des photos dans un environnement standardisé qui facilite les comparaisons derrière.
D'accord.
Comme c'est le ciel nouveau. Moi, elle me pose question. Donc j'en profite pour prendre quelques feuilles. Parce qu'on a aussi des photos de feuilles, de fleurs, de chaque variété.
D'accord.
Ce qui va nous permettre après demain d'avoir un référentiel et quand on trouve des nouveaux vieux poiriers, de pouvoir les rapprocher de telle ou telle variété, dans un premier temps.
Ouais. Souvent sur les vieux arbres, les caractéristiques ne sont pas vraiment définies. Lorsqu'on les greffe, après, au bout de 3-4 ans, les fruits sont un peu différents. Bacheville, ils sont toutes pourries dans l'arbre.
Ah ouais.
Et quelles caractéristiques?
Ah bah c'était des trucs à poirer. Hein.
La poirée de premier... À mélanger au cidre, c'est
ça ? Oui, Bacheville, ça vient de Florec.
D'accord, comme Roussette qu'on va voir après.
Oui, ben là c'est sous les chênes, donc c'est une poire pomme si on veut. La poire ressemble plus autant à une pomme.
Ah, on dirait un hachis.
Oui.
Un hachis, ah mais oui,
essayez. C'est différent.
Un hachis, c'est un hachis.
Ah, ça c'est une poire pomme.
C'est une poire pomme.
Mais on a trois...
Ça, c'est un poire.
On okay. a trois ou quatre variétés de poires qui ressemblent à des pommes.
Le nachi a effectivement une peau de poire.
Ouais.
Et il est extrêmement juteux.
Mmh. Ah, c'est encore dingue. Ouais.
Il y a la roussette de Liffré et la roussette d'ici.
Ça, c'est la roussette d'ici.
De Plorec.
Roussette de Plorec. Ouais, 3188, unique.
Ah bah celle-là, elle est dure comme du béton.
On est dans la poire à cuire. Hein.
Non, c'était poiré. Hein.
Ouais.
Bah, faut attendre un petit moment.
Oui, oui.
Voilà.
Monsieur Hayet à Plorec, dans le bourg.
D'accord. Bah, on reviendra prendre des échantillons un peu plus tard.
Donc là, c'est Marie Langlais. Marie Langlais, c'est Plouane. C'est une vieille bonne femme. Donc elle avait déjà plus de 70 ans quand elle nous a donné ça il y a 30 ans. Et elle cultivait avec des bœufs dans le temps.
Gros pot.
Ça, c'est du gros calibre.
Ah. Gros pot, là, ça vient de Vignoc, de chez Monsieur Riche, qui n'était pas très riche. Bah, tu rentres dans la maison, il y a une cloison de bois, et puis derrière, ce sont les vaches.
Rempli de jus.
On pourrait terminer avec une grosse Québriac, puisqu'on a parlé de petite Québriac. Bon, la Soulsonne est une pomme de la famille des Saint-Louis, qui sont des variétés, une poire, pardon. Une variété précoce. Donc là, on le voit bien, on a beaucoup au sol. Les frelons, ils ont repéré qu'il y avait du sucre. On va se rafraîchir la bouche, peut-être avec ça.
Ok.
En mettant pas la main sur un frelon.
Oui, mais il vaut mieux les prendre dans l'air, parce que quand elles sont tombées, c'est qu'elles sont blettes.
Elles sont précoces, quoi.
Donc, celle-là, on l'appelle Saint-Louis ronde rouge, parce qu'on a de la Saint-Louis ronde et puis de la Saint-Louis tout court.
D'accord.
Saint-Louis tout court, il est planté complètement dans la deuxième partie, mais complètement à l'autre bout. La Saint-Louis, c'est une variété, oui, nationale presque. Et donc, on retrouve ça dans les vieux livres. Et donc, on a un arbre remarquable, à la très honnête, qui faisait je ne sais plus combien de circonférences et de hauteur. Et qui existe toujours.
Voilà, oui. Lui, il est référencé arbre remarquable de Bretagne.
D'accord.
Par la Maison de la Consommation et de l'Environnement qui gère le. Nous, on est allé le voir.
Ouais, d'acatum, elles sont blettes. Et dans l'arbre, elles sont très bonnes à croquer directement. Bah, après, il faut aimer les extrêmes.
C'est ça.
Ah là, t'as autant. Là, c'est un équilibre, elle toute seule. Hein, parce que t'as beaucoup de sucre, t'as aussi une acidité qui est tranchante.
C'est ça qui est bien dans les vergers conservatoires, c'est qu'on se fait plaisir. Gustativement, on peut les goûter les unes après les autres et avoir des sensations complètement diverses.
Oui, complètement.
Et en verger pommier, conservatoire à cidre, pareil, entre l'amertume très forte, la douceur.
Et l'acidité.
Ouais, on s'amuse bien.
Oui. Et il y a combien de vergers conservatoires
Les mordus, il y en avait plus de 70.
Oui.
Ah, quand même.
Oui.
Basé sur tout le territoire.
Oui, oui, oui.
Tout le territoire de Dinan.
De Dinan, oui. Mm-hmm.
Oh bah ça va, si on veut, de la Mézières jusqu'à Saint-Malo.
Ouais, à l'échelle bretonne, on est pas loin de 200. C'est un long travail la reconnaissance variétale.
Bah oui.
Et des fruits, on n'en a pas tous les ans. Mm. Et on est obligé d'attendre l'année prochaine, souvent. Voilà. Donc on essaie d'avoir un répertoire photographique, numérique, tout ça. Mais ça remplacera jamais d'avoir le fruit en main, de le sous-peser, de pouvoir le toucher sur la rugosité de la peau. Mm. Et de le goûter.
Surtout.
Mais nous, ça nous permet de vérifier aussi les variétés, leur fréquence dans les vergers conservatoires. Parce que chemin faisant, il y a des variétés qui sont présentes de manière assez systématique dans les vergers conservatoires, parce qu'on l'a trouvé un peu partout.
Okay.
Et puis, il y en a d'autres qu'on va malheureusement retrouver dans un seul exemplaire, dans un seul verger.
Okay.
Alors ici, on a la chance d'avoir déjà un doublon. Mm. Mais les récents incendies de l'an dernier nous ont fait dire que ce serait bien d'avoir un autre verger où il y ait la même variété.
Oui, pour ne pas la perdre définitivement. Ouais.
Idéalement, il faudrait deux paires de variétés dans deux vergers pour qu'on soit sûr que la variété elle est en sécurité.
Ouais, c'est sûr.
Mais c'est pas le cas. Donc on va avoir besoin bientôt de créer des nouveaux vergers conservatoires avec ces variétés orphelines.
D'accord.
Il y a une personne qui, entre autres, a pour mission d'avoir un listing régional faisant fi des dialectes bretons, des doublons, des erreurs d'orthographe, et tout ça, pour définir les listes prioritaires de ce qui est à conserver d'urgence. Sachant qu'en parallèle, il y a des pomologues qui continuent à faire du collectage et qui retrouvent encore des variétés non répertoriées. Donc pour ajouter ça, que chaque association crée des nouveaux vergers chaque année.
Donc ça c'est quête de loup. Et quête de loup, ça veut dire cuisse de loup en galop. Vous me prenez dans l'arbre, là c'est sûrement blé.
Ouais.
Non, ça va.
Elles sont hyper précoces parce que c'est farineuse.
Donc c'est pour faire du cidre de bonheur. Mélangé avec soit les pommes précoces, soit avec les échaudées. Les échaudées, c'est toutes les pommes qui tombent de bonheur, véreuses ou des coups de vent. Donc, belle de Bruxelles ou sans pépins.
Ça, c'est une, c'est une à couteau.
Ça. Ça,
oui, il l'appelait sans pépin dans le marais de Dole.
D'accord.
C'est mûr ou c'est pas mûr?
Ah si, c'est mûr. Hein. Oui, oui, c'est blé même.
Oh, elle est bonne.
Elle doit venir d'Allemagne.
Ah, ouais. Elle est douce, elle. Elle est bien croquante, bien juteuse.
Normalement, oui.
Je vais la manger, celle-là.
Ah bon. Ça vaut mieux ça que Malier, c'est dur comme des cailloux pour l'instant.
Comme quoi, c'est vraiment étalé. Et les plus tardives que vous ayez pu voir dans le verger conservatoire, là?
Malier, je la conserve jusqu'au mois de février.
Ah, quand même?
Oui, je crois que c'est une des plus tardives. Ils en faisaient du cidre à Pleudihen. Mais oui, mais la cidrerie de Pleudihen a rouspété parce que c'était bien trop dur à broyer. Mmh. Donc, ils n'avaient plus le droit de l'amener.
Et pourtant, ces variétés ont traversé les siècles.
Bah c'est le cas de le dire.
C'est qu'elle devait être intéressante.
Je ne te prends pas pour Victor Hugo.
Et vous avez retrouvé beaucoup d'écrits sur justement les poirées dans le coin?
Il faudrait aller par exemple à l'école d'agriculture de Rennes. Là on en trouverait, ils ont une bibliothèque énorme.
Mais quand on voit la cartographie des poirées vénérables et puis les points génétiques qui s'affichent, avec des points qui correspondent et qui sont distants de des fois 30, 40, 50 km, c'est qu'il y a eu une histoire. C'est pas possible que ces variétés se soient diffusées comme ça, spontanément ou à l'occasion d'un seul mariage.
Oui.
L'histoire, elle s'est éteinte, à mon avis, il y a bien plus longtemps que celle du poiré de Domfront. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des reliquats de ça. Et c'est ça qui est passionnant pour nous, c'est d'essayer de retrouver cette histoire, alors qu'il y a très très peu d'écrits. On voit qu'il y a des traces très anciennes. Mais si on avait quelqu'un spécialisé un peu en biblio et ethnobotanique, on le mettrait à aller dans les archives municipales. Parce qu'on voit le petit journal de Dinan, là.
Oui, oui.
Ça, à mon avis, c'est pas numérisé. On trouve pas ça à la Bibliothèque nationale. On trouve pas ça.
Non.
Il faut aller dans les fonds d'archives, retrouver des choses. Ce serait passionnant.
Ah bah, oui, mais bon, faut trouver quelqu'un.
Faudrait me cloner.
Non, parce qu'on avait demandé aux étudiants de Rennes en histoire et géographie, en histoire, pour travailler sur les variétés qui étaient exportées par la Rance, les variétés de pommes, et puis la quantité de pommes exportées pour tous les ports du Trégor et puis du Léon. Parce que là-bas, ils faisaient du maraîchage, donc il n'y avait plus de pommiers. Mais le prof nous a dit, il faut nous donner les documents. Ils veulent bien travailler dessus, mais il faut qu'on leur donne les documents. Alors. Parce qu'on irait au port de Saint-Malo, et il y a des archives.
Mais on va y affiner ça.
Ok, pomme, j'adore ça, donc ça fait du cidre.
Est-ce que c'est bon le cidre?
Oui.
Bouscule tes sens.
Mais bien sûr, monsieur, quand c'est permis, c'est pas l'apéro.
Quand vous avez bu deux, trois coups de cidre et puis un choc bouteille de poêle après, alors là, c'est la grande valse.
L'acidité. La quoi?
Et enfin, la station régionale de Rennes nous permet de ne pas oublier que si la France est le pays du vin, elle est aussi celui du cidre.
Bouscule tes sens.